Chapitre 20. Jouna traverse la forêt et s'approche de la station de métro abandonnée quand le centre de commandement l'appelle pour l'informer que ni le coupable présumé, ni aucune voiture équipée d'un treuil électrique n'ont été retrouvées. Est-ce qu'il y a des traces de sang? On continue à fouiller la zone, mais rien pour l'instant. Il s'arrête à l'extérieur du périmètre. La lumière bleue de 3 des 5 véhicules d'intervention balaie les arbres et le béton. Jouna soulève la rubalise et s'approche d'un policier en uniforme. Pendant qu'il se salue, une rame de métro passe devant la station sans ralentir. Les arbres le long des voies se balancent violemment sous l'effet de l'appel d'air. L'agent l'informe que la police scientifique devrait arriver sur les lieux dans 1 heure. Une moto s'approche sur la route forestière et se gare derrière la voiture de Jouna. La conductrice enlève son casque et l'accroche au guidon. Le policier se tait dès qu'il pose son regard sur Saga Bauer. Elle s'approche à grands pas, vêtue d'un jean et d'une fine veste en cuir à large revers ceinturée à la taille. « On avait tort », dit Jouna lorsqu'elle arrive à sa portée. « Merde, comment c'est possible ?»« L'énigme doit avoir un rapport avec l'eau et le mouchoir. » Une policière avec un gilet pare-balles sort du bâtiment de la gare, franchit l'ouverture dans la clôture et se dirige vers eux. Son visage est gris de fatigue, mais elle les regarde avec une tension dans les yeux. « Voici Naomi Alberg. Elle était la première sur les lieux », explique le policier. « Elle est entrée, Saga Bauer ?» l'interrompt Naomi en s'arrêtant devant eux. « Oui, c'est moi. » Naomi la regarde avec une lueur étrange dans les yeux. « Venez. » Ils la suivent à travers la clôture, puis sur les rails. La lumière du soleil jaillit derrière les feuilles des arbres, et des taches de lumière se balancent avec fébrilité sur le sol en béton. Mais à l'intérieur de la gare, l'obscurité est poussiéreuse. Naomi leur fait traverser le quai et monter les escaliers jusqu'à la salle des guichets. Le sol est jonché de bouteilles vides, de rats morts, de matelas sales, d'emballages en alu, de préservatifs, de mégots. Il y a aussi un feu de camp éteint, des cartons déchirés, des vieux sachets de chips et du verre brisé. Naomi montre du doigt un grand mur de béton recouvert de graffitis et de tags. Des noms, des têtes de mort et autres motifs sont dominés par l'inscription « Yash » en grosses lettres, ainsi que par un énorme motif représentant une fille aux joues rondes, au visage grave et aux grands yeux. Jouna et Saga s'approchent du mur. Au milieu d'une des pupilles de la fille, dans la lueur de son œil, est collé un bout de papier rectangulaire. Une carte postale avec le texte vers l'extérieur. Jouna dirige sa lampe de poche dessus. « Saga Bauer, il reste maintenant 5 balles blanches dans mon Makarov rouge. L'une d'elles est pour Jouna Lina. Penses-tu toujours pouvoir le sauver ?»« Celui qui ne résoudra pas l'énigme sera jugé par les morts. Jesu Fadvarok. » Jouna sort un sachet plastique, demande à Saga de le tenir, enfile des gants en latex et décroche la carte. Un petit bruit sec se fait entendre lorsque la colle se détache du mur en béton. Il lit le texte une seconde fois avant de retourner la carte postale. « Ça ne s'arrêtera jamais », murmure Saga en prenant appui avec sa main sur le support mural d'un extincteur. Werner Zenden s'assied sur le banc de la petite cabine, sa main pressant fortement la blessure qu'il a au bras. Son portable n'est plus dans son sac à dos. Il a dû tomber de sa poche lorsqu'il s'est précipité dans l'établissement et qu'il s'est cogné la tête sur la vitre du guichet. Les cabines s'ouvrent les unes après les autres. Les pas se rapprochent. C'est seulement maintenant qu'il pense à ce qui est arrivé à Margot. Il essaie de respirer calmement et de garder la tête froide. Si le tireur ouvre la porte de sa cabine, il peut sans doute le pousser violemment en arrière, puis se précipiter vers l'entrée, récupérer son portable, se cacher dans la forêt et appeler les secours. Mais s'ils sont plusieurs, la porte d'entrée sera probablement surveillée. Peut-être est-il possible de descendre les escaliers en courant, de sauter dans l'eau et de quitter les lieux à la nage. Soudain, Il remarque qu'une mare de sang s'est formée sur le sol juste devant la porte. Si elle s'agrandit et coule à l'extérieur, il est foutu. Il se lève en silence, retient sa respiration et tend l'oreille. Lorsque le tireur ouvre la cinquième cabine, Werner pousse doucement la porte vers les bains extérieurs, essuie la mare de sang sur le sol avec son pantalon de survêtement, puis balance son sac à dos par-dessus la balustrade avant de refermer la porte. Le sac atterrit sur la pelouse et roule jusqu'au buisson de rhododendron. Le tireur s'arrête. Soudain, le silence est total. Puis Werner l'entend s'éloigner en direction des escaliers. Le pistolet qu'il tient à la main cogne contre les barreaux de la rampe lorsqu'il descend. Werner pense à nouveau à son petit frère, à la façon dont l'une de ses colonnes vertébrales traîne derrière lui lorsqu'il traverse les pièces dans ses cauchemars. La douleur palpite dans son bras. Il colle son oreille à la porte et essaie d'interpréter les mouvements de l'agresseur pour comprendre quand il sera lui-même hors de vue. Il sait qu'il n'aura que quelques secondes devant lui. Sa chemise est trempée de sang, des gouttes coulent du bout de ses doigts jusqu'au sol. Werner croit entendre des bruits de pas sur la terrasse en bois de la cour intérieure. Il ouvre doucement la porte de la cabine et y jette un œil. Sa vision est mauvaise sans ses lunettes. Mais il est presque certain qu'il n'y a personne. Son cœur bat trop vite dans sa poitrine et sa respiration devient de plus en plus courte. Il réalise qu'il ne pourra pas nager ou courir très longtemps. Il n'a pas d'autre choix que de parier sur le fait que l'entrée n'est pas gardée, qu'il pourra sortir et essayer de trouver de l'aide ou se cacher. La sensation de vertige devient de plus en plus forte. Ses jambes vacillent quand il longe les portes bleu ciel en direction des vestiaires. Il presse toujours fermement sa main sur son bras, mais sent que le sang pulse entre ses doigts. Il tourne la tête vers les escaliers. Tout est flou à présent. Il n'arrive même plus à distinguer les piliers. Le sang coule abondamment le long de ses doigts et laisse une fine ligne sur le sol derrière lui qui s'introduit dans les interstices du plancher. Il se dit qu'il devrait essuyer la traînée derrière lui. Peut-être devrait-il d'ailleurs laisser des traces de sang dans la mauvaise direction afin de tromper le tireur. Il fait une pause, s'accroupit et regarde les escaliers qui mènent à la cour intérieure. Tout est immobile. Une ombre grise se détache soudain au loin et s'approche de la dernière marche de l'escalier. Werner se retourne et se dirige en chancelant vers l'entrée. Il commence à se sentir très faible à cause de tout le sang qu'il perd. Il trébuche et se cogne l'épaule contre le cadre de la porte. Il essaie de rester concentré. La porte a été totalement détruite et elle est maintenant ouverte sur le parking ensoleillé. Des éclats de serrure ainsi que des copeaux de bois sont éparpillés partout sur le sol. Werner se dépêche d'avancer et découvre son portable à terre, sous le guichet. Il entend soudain quelque chose de métallique rouler sur le plancher, comme une boule d'acier. Il lâche son bras, se penche en avant et ramasse son portable. Lorsqu'il se redresse, sa vue se brouille. Et tout devient noir pendant quelques secondes. Son cœur cogne à tout rompre dans sa poitrine. Le bruit métallique se rapproche. Son portable est glissant à cause du sang et il n'arrive pas à voir les touches sans ses lunettes. Impossible de le déverrouiller. Il faut absolument qu'il sorte chercher de l'aide. Il titube jusqu'à la porte d'entrée mais perçoit une respiration rapide juste derrière lui. Il n'a pas le temps de réagir avant que le coup de feu ne retentisse. Le sang gicle de l'orifice laissé par la balle et éclabousse les dalles en pierre. La balle a traversé la partie inférieure de son poumon droit. Son portable tombe dans le couloir qui donne sur le restaurant et atterrit sous une chaise. Werner essaie de se baisser pour le récupérer, mais il est pris d'une quinte de toux. Il a du mal à garder les idées claires. Les seuls mots qui lui traversent l'esprit sont « Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Le tir suivant l'atteint à la cuisse et il s'écroule en avant. Il se retrouve à quatre pattes et gémit de douleur. Il rampe vers son portable, l'attrape et continue à avancer vers la porte du restaurant.